La vie d'Avidanta. Une émission présentée par Aline.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous présente notre journal hebdomadaire de la vie quotidienne. Merci à Alex qui fait la prise de son et le mixage, ainsi qu'à toute l'équipe de Radio Centrafrique. Au sommaire de cette semaine, nous allons parler de l'alimentation vivante. Et qu'entend-on par alimentation vivante? Y a-t-il alors une alimentation morte? Et puis, dans la rubrique de ces aliments qui nous soignent, nous expliquerons ce qui favorise la digestion au regard de la diététique chinoise. Nous terminerons l'émission par la recette du tartare d'algues et je vous guiderai dans sa préparation. Les algues sont très riches en iode, donc très favorables en cas d'hypothyroïdie. Mais tout de suite, passons au thème principal. L'alimentation vivante désigne tout simplement un mode d'alimentation qui favorise très largement les aliments comportant un fort taux de nutriments nécessaires au corps humain et donc porteurs de vie. Pour comporter un fort taux de nutriments, ces aliments doivent par définition être naturels, non transformés, ne comportant pas d'additifs chimiques ou n'ayant pas subi de manipulation génétique et bien sûr, facilement assimilables par l'être humain. Appelés généralement alimentation haute vitalité ou crudivorisme, la nourriture vivante se traduit par des repas 100% naturels. L'alimentation vivante va donc se tourner vers les aliments crus et biologiques d'origine végétale, comme les fruits et les légumes, les graines germées, les oléagineux, les jus de jeunes pousses, comme le jus d'herbe de blé, les algues, etc., etc. L'alimentation peut nous fournir tout ce dont nous avons besoin pour une bonne santé, mais elle peut aussi conduire à la destruction prématurée de l'organisme si elle est dévitalisée, transformée ou raffinée. Vous l'avez deviné, une classification des aliments en deux branches s'impose. D'une part, les aliments vivants, appelés aussi les biogéniques, et d'autre part, les aliments morts, appelés les biocidiques. Comme rien n'est jamais si simple, chaque branche d'aliments, les vivants et les morts, se divise en deux catégories. Dans la branche des aliments morts, on trouvera donc les aliments dits biocidiques. Ces aliments détruisent la vie. Ils ne contiennent plus aucune force vitale parce qu'ils ont été détruits par des processus chimiques ou mécaniques. Il est compliqué de vous les énumérer car la liste est très longue. Dans tous les cas, si vous décidez d'adopter un régime alimentaire à base de nourriture vivante, vous devez définitivement dire adieu aux aliments à base de sucre blanc ou de farine raffinée, les pâtes et les croissants par exemple. De plus, vous devez proscrire tous les produits contenant des additifs chimiques ainsi que ceux qui sont préparés à base d'huile ou bien de matières grasses industrielles. À noter que l'huile de palme et l'huile de friture sont vos pires ennemis. Malheureusement, vous devez également dire au revoir à toute la junk food, telle que les pizzas, les frites ou bien encore les burgers. Néanmoins, si cela peut vous rassurer, dites-vous que vous le faites pour maintenir votre santé à son niveau optimal. Dans tous les cas, vous devez aussi arrêter les sodas et les autres boissons sucrées. En regardant la composition des produits que vous achetez, vous arriverez rapidement à définir si vous avez entre les mains de la nourriture vivante ou de la nourriture morte. Et puis, il y a les aliments dits biostatiques. Ces aliments ralentissent la vie. Ce sont des aliments neutres. Tout le monde le sait, tout n'est pas tout noir ou tout blanc dans la vie. Les régimes alimentaires n'y font pas exception. En effet, en ce qui concerne les aliments, il existe une catégorie de produits que l'on désignera comme étant des produits neutres. Cette dernière inclura tous les produits naturels qui ont été cuits ou bien qui ne sont plus totalement frais. Ils seront considérés comme biostatiques, c'est-à-dire qu'ils auront perdu une partie de leur valeur nutritive. Or, ils ne représenteront pas plus un danger pour votre organisme. Concrètement, les aliments neutres ne sont pas mauvais pour la santé. Leur unique défaut est qu'ils ont perdu la majeure partie de l'apport nutritionnel que votre organisme nécessite. Vous pouvez donc en manger à condition de ne pas faire l'impasse sur la nourriture vivante. Lorsque vous vous penchez de plus près sur la nourriture vivante, vous remarquerez aussi que les aliments qui la composent sont divisés en deux catégories. Donc, dans la première branche, on trouvera les aliments biogéniques. Ces derniers sont réputés pour être un concentré de vitalité et une source d'énergie optimale. On définit par le terme biogénique tous les produits qui sont germés, comme les graines, les noix, les céréales ou bien encore les légumineuses. Vous cherchez des aliments à forte valeur nutritive ? Vous ne trouverez pas mieux que les produits germés. Et grâce à eux, vous allez notamment pouvoir prévenir des problèmes de carence, voire de malnutrition. Et même favoriser le fonctionnement de votre pancréas, qui est l'organe responsable de la production de l'insuline, une hormone dont le rôle est de maintenir la glycémie à des taux normaux. Il est aussi chargé, ce pancréas, de la production d'enzymes digestives qui décomposent les graisses, les glucides et les protéines issues du bol alimentaire. Et donc, il est un maillon indispensable pour une bonne digestion. Tous les aliments crus contiennent des enzymes. Mais pour augmenter vos niveaux d'enzymes naturellement, le plus puissant reste les graines germées, telles que les amandes germées, les lentilles germées, le blé germé, les petites graines comme l'alfalfa ou la luzerne, et plein d'autres encore. Les aliments biogéniques sont de très grands détoxifiants, combattent la toxémie dans l'organisme, accélèrent les procédés de guérison et les transformations biologiques. Ils sont alcalinisants, par opposition à acidifiants, c'est-à-dire qu'ils vont apporter un équilibre majeur à vos tissus et sont hautement énergétiques. La deuxième catégorie existante dans la nourriture vivante est celle des produits bioactifs. Ces derniers possèdent les micronutriments essentiels pour votre organisme. On y retrouve notamment un grand nombre de vitamines et de minéraux. Cette catégorie de produits doit absolument être omniprésente dans votre alimentation afin de maintenir votre organisme en bonne santé. On y retrouve par exemple les fruits, les baies, les légumes crus, la salade verte, les légumes et boissons lactofermentés, les noix, les jus de fruits frais, faits maison, les algues, les super-aliments comme la spiruline ou la clamate, le miel, les sucres non raffinés et les huiles biologiques pressées à froid. Il en est de même pour les fromages à base de lait cru, le chocolat cru aussi, le thé et même les bières qui n'ont pas été filtrées ni pasteurisées. La nourriture vivante possède de nombreux bienfaits. Il est primordial de prendre en compte lorsque l'on veut se maintenir en bonne santé. Voici quelques vertus dont vous bénéficierez avec une alimentation vivante. Tenez, le jus d'herbe d'orge ou de blé est rempli de chlorophylle, celle que l'on surnomme le sang vert, et qui a de nombreuses vertus qui sont indiquées dans un certain nombre de troubles. Par exemple, la chlorophylle favorise une augmentation de la production de globules rouges et de la production d'hémoglobine chez les personnes anémiées ou encore chez les sujets ayant subi des accidents cardiovasculaires. Elle absorbe les toxines se trouvant dans l'intestin ainsi que les toxines corporelles. La chlorophylle est une alliée des cures détox. On sait qu'une flore intestinale équilibrée permettra une meilleure défense immunitaire contre tout type de germes. La chlorophylle réharmonise la flore intestinale. Le corps sera plus prompt à se défendre grâce à sa meilleure oxygénation, permettant de contenir la prolifération des bactéries. Elle agit aussi comme désodorisant interne, contre la mauvaise haleine, la sueur, les selles, l'urine, les odeurs alimentaires, l'ail par exemple, et les odeurs menstruelles. Sans être un laxatif, la chlorophylle a un effet normalisateur sur le transit intestinal. Elle a des capacités antioxydantes et ses capacités sont 1000 fois supérieures aux xanthines du café, du thé, du maté, du chocolat. Elles sont 20 fois supérieures à celles du resvératrol qui sont contenues dans les raisins, dans le vin, dans les mûres. La chlorophylle augmente la production de globules blancs aussi. Elle est aussi un régulateur de la fermentation intestinale. La chlorophylle réduit la production de gaz et de toxines d'origine digestive et contribue ainsi à protéger le foie, véritable seconde ligne de défense après la barrière intestinale. Elle constitue l'une des meilleures manières de détoxifier constamment l'organisme. En conclusion, je dirais qu'on aura beau manger l'alimentation la plus saine possible, si nous ne sommes pas capables de l'absorber via la qualité de nos intestins, puis de la transporter vers nos cellules qui en ont besoin via la qualité de nos humeurs, nous serons mal nourris. Des cellules bien nourries représentent un corps bien nourri, car l'alimentation saine n'est pas un régime, c'est une hygiène de vie au quotidien. Dans la rubrique de ces aliments qui nous soignent, je vais vous parler de ce qui favorise la digestion, au travers bien entendu des concepts de la diététique chinoise. Un des critères pour la qualité de notre digestion repose sur les quantités d'aliments absorbés. Dans une précédente émission, nous avons déjà parlé de la tempérance alimentaire. Revoyons ça ensemble. Pour que les transformations puissent avoir lieu au niveau de l'estomac, il ne doit pas être complètement rempli. Sortir de table avec la sensation d'avoir trop mangé est le garant d'une digestion difficile. Les aliments stagnent, des fermentations risquent de se produire, générant une sensation de distension et de douleur au niveau de l'estomac et de l'abdomen. L'idéal est de quitter la table en ayant l'impression de ne pas être complètement rassasié. Vient ensuite la mastication. L'estomac doit transformer les aliments et les boissons en une bouillie alimentaire chaude. Pour cela, il doit malaxer et décomposer les aliments qu'il reçoit. Plus les aliments sont coupés fins, et surtout plus ils sont mastiqués avant d'être avalés, plus le travail de l'estomac est facilité. Un proverbe indien dit qu'il faut boire ses aliments. C'est dire s'ils doivent avoir été mastiqués longuement. Bien mâcher les aliments est particulièrement important si vous souffrez déjà de troubles digestifs. Si vous mangez trop vite et avalez sans mâcher, vous aggravez votre cas. Le critère favorisant suivant est le besoin de chaleur digestive. Je m'explique. En médecine traditionnelle chinoise, le processus digestif consiste d'abord à créer une température légèrement plus élevée dans l'estomac que dans le reste du corps. Cette chaleur est nécessaire pour que la transformation des aliments puisse se faire et pour que la rate puisse extraire l'essence subtile des aliments. Le contenu de l'estomac doit être amené à une température de 38 degrés environ. Aussi, manger chaud favorise la digestion. Plus nous mangeons ou buvons froid ou glacé, plus nous devons utiliser notre propre énergie pour réchauffer le contenu de l'estomac. Le but de l'alimentation étant de produire de l'énergie pour le corps, si nous en consommons autant pour digérer que nous en apportons en mangeant, le bénéfice risque d'être faible. Devons-nous consommer plutôt du cru ou plutôt du cuit ? Nous venons de voir que pour favoriser la digestion, il valait mieux manger chaud. La médecine traditionnelle chinoise préconise effectivement de manger surtout des aliments cuits et considère l'excès d'aliments crus et froids comme une cause de maladie. Or, les crudités sont réputées pour leur richesse en vitamines et en minéraux, et ces éléments ont tendance à diminuer lors de la cuisson. Effectivement, les aliments crus sont censés apporter encore beaucoup plus de ces éléments précieux, mais c'est plus théorique que réel. En effet, les aliments crus demandent au corps une telle énergie pour les digérer et les assimiler que le bénéfice réel est nettement moins intéressant que ce que l'on pouvait imaginer. L'assimilation des nutriments n'est pas forcément garantie. Par ailleurs, une cuisson excessive des aliments tendra à leur faire perdre les vitamines et les minéraux. Alors, la cuisine chinoise résout ce dilemme en proposant, pour certains aliments, une cuisson courte, du type de cuisson telle que le sauté permet de saisir les aliments à l'extérieur, tout en les gardant presque crus, croquants à l'intérieur. Les vitamines, les minéraux et les enzymes sont ainsi plus facilement assimilables. Certains aliments sont indigestes sans cuisson, comme les céréales ou le blanc d'œuf, et ne peuvent être assimilés que cuits. Ensuite, l'estomac déteste la sécheresse. L'estomac a besoin de liquide pour constituer sa bouillie alimentaire chaude. Boire frais ou glacé pendant le repas bloque la digestion. Boire chaud, de préférence à la fin du repas, est favorable à une meilleure assimilation des aliments. Les Chinois finissent souvent le repas par une soupe chaude, ce qui est une excellente habitude pour favoriser la digestion. Et puis, la rate déteste l'humidité. La rate est l'organe du feu digestif et le feu craint l'eau. C'est également le rôle de la rate de transformer les liquides. Si l'on boit beaucoup pendant le repas, la rate est débordée et ne peut pas transformer tous ces liquides. Ils peuvent s'accumuler alors, créant dans le corps ce qu'on appelle de l'humidité pathogène. Les manifestations de l'excès d'humidité dans le corps peuvent être des sensations de lourdeur, des œdèmes, des selles molles ou liquides, des pertes blanches, des nez qui coulent. Trop de liquide alors, lors du repas, empêche la rate d'assurer ses fonctions et l'affaiblit progressivement. Et pour finir, un léger massage de l'abdomen après le repas aide à créer la chaleur nécessaire à une bonne digestion. Massez votre ventre dans le sens des aiguilles d'une montre, puis dans l'autre sens, et enfin verticalement, de haut en bas, pour favoriser le mouvement de descente de l'énergie de l'estomac. Alors, petit résumé. Quels sont les points essentiels qui favorisent la digestion? Ne pas manger jusqu'à satiété. Bien mastiquer. Manger chaud. Éviter l'excès de cru et de froid. Boire peu avant et pendant le repas. Boire chaud après le repas. Manger dans le calme et la sérénité. Pratiquer une courte marche ou un automassage après le repas. Bonne digestion! Pour le partage musical d'aujourd'hui, je ne sais pas s'il est utile de la présenter, tellement elle est une icône de la chanson pop-rock des années 80. Qui ne connaît pas Catherine Ringer? La chanteuse du groupe mythique Les Rita Mitsuko, durant 27 ans. Merveilleuse voix doublée d'une énergie de dingue, écoutons Catherine Ringer dans « Alors c'est quoi ?»
Alors c'est quoi que j'appelle? C'est la joie, c'est elle que les émois étincellent et s'entremêlent encore nos voix. À chaque fois je remets ça. Un, deux, trois, ça recommence. À chaque fois, je remets.
C'est extrêmement joyeux et elle donne tellement envie de danser. Pour rebondir donc sur l'alimentation vivante, aujourd'hui, je vais vous donner la recette du tartare d'algues, qui est donc un aliment très digeste. Les algues sont riches en sels minéraux et en oligo-éléments, notamment en iode, qui est excellent pour la mémoire. On peut utiliser toutes sortes d'algues. La salade du pêcheur est un mélange tout près de trois algues, la dulce, le nori, de couleur rouge, et la laitue de mer. Elle est facile à utiliser. Rincez-la simplement à l'eau, et si vous l'achetez déshydratée, il vous suffira de la faire tremper dans de l'eau pour qu'elle reprenne du volume, et ensuite de la presser à la main pour l'essorer. L'ijiki est une autre algue plus relevée, très utilisée en plats cuisinés au Japon. Laissez-la aussi tremper dans un verre d'eau pendant une dizaine de minutes. Veillez à consommer de l'ijiki en quantité modérée, car il a une teneur assez élevée en arsenic inorganique. Alors, voici la liste des ingrédients qu'il vous faudra pour préparer ce tartare d'algues. Donc, un sachet de salade du pêcheur et un peu d'ijiki. Deux échalotes, une cuillère à soupe de câpre, un zeste d'orange, un peu de wasabi ou quelques gouttes de jus de gingembre, de la coriandre et de la ciboulette fraîche, un jus de citron, de l'huile d'olive et un filet d'huile de sésame grillée, mais ça c'est le joker. Une fois que vous avez rassemblé tous les ingrédients, vous allez éplucher les échalotes et les passer grossièrement au mixeur. Ajoutez dans le mixeur une cuillère à soupe de câpre, les algues, un peu de zeste d'orange, un peu de wasabi pour donner une petite touche épicée et mixez grossièrement à nouveau, mais pas en purée. Ajoutez ensuite une poignée de feuilles de coriandre et de ciboulette pour leurs propriétés antiseptiques et expectorantes, une à deux cuillères à soupe d'huile d'olive et une cuillère à café d'huile de sésame qui va apporter son parfum très intense au tartare ainsi que le jus de citron. Redonnez un petit coup de mixeur, goûtez pour éventuellement ajuster l'assaisonnement et votre tartare est prêt. Si vous le servez immédiatement, il sera très épicé car l'échalote vient tout juste d'être hachée et avec le temps, il va s'adoucir. Je vous souhaite d'apprécier cette préparation que je trouve personnellement divine. Avant de nous quitter, j'aimerais faire une petite célébration car aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma merveilleuse fille qui fête ses 33 ans. Alors, bon anniversaire ma chérie. Et voilà, notre émission s'achève pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt. Retrouvons-nous la semaine prochaine, même lieu, même heure. Et d'ici là, portez-vous bien. Pensez à bien respirer, à bien manger, à bien rigoler, à bien bouger, à bien vous reposer, à bien aimer. Vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur le site de Radio Sainte-Afrique, dans l'onglet Les Hebdos, La Vida Vidanta. Si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, l'émission sera rediffusée le samedi à 8h10. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter. Adiciat.